Les mots des religions. On retrouve Sylvie Barnet pour les mots du christianisme.
Sylvie Barnet, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on parle d'un mot qui est spécifique au christianisme, mais peut-être on trouve ce mot ailleurs, le mot miracle.
Oui, nous allons faire des miracles.
Est-ce que ce mot apparaît dans la Bible ?
Oui, le mot miracle dans la Bible sert à désigner les miracles du Christ. Le Christ accomplit d'innombrables miracles. Alors, un miracle dans l'Antiquité, c'est ce qui étonne. Miraculum est, c'est ce qui étonne. Donc, parmi les miracles accomplis par le Christ, il y a de nombreux miracles de guérison, il y a de nombreux miracles de résurrection. Un jour, par exemple, il chemine, il rencontre la veuve de Sarepta, dont le fils vient de mourir, et il s'approche du grabat où se trouve son fils et lui dit de se lever. Et voilà le fils ressuscité. Il y a encore d'autres types de miracles, par exemple les miracles de multiplication de nourriture, comme les miracles de multiplication du pain et du vin.
Et le miracle de marcher sur l'eau, par exemple.
Oui, le miracle de marcher sur l'eau, le miracle de ramener les filets pleins de poissons. En fait, cela nous donne une première définition du miracle, parce que le miracle, c'est lorsqu'une issue divine est donnée à une situation humaine sans issue. C'est aussi lorsqu'il y a l'union des contraires, par exemple le fait de marcher sur l'eau, eh bien l'eau devient comme une terre ferme, l'eau est devenue terre. Il y a là comme un renouvellement, dans la manière de le dire, du premier miracle qui, pour le christianisme, est le miracle de l'incarnation, lorsque la Vierge devient mère et qu'elle donne naissance à l'enfant Jésus.
Alors si l'on peut comprendre en effet que Jésus, Christ, peut faire des miracles, est-ce que tout un chacun après dans l'histoire a commencé à faire des miracles ? Quand apparaissent les miracles des gens qui ne sont pas le Christ ?
Alors on commence à parler de miracles pour ceux qui portent le visage du Christ, c'est-à-dire les saints, hein, ceux qui ressemblent au Christ en imitant sa vie. On commence à parler de miracles à partir du IVe siècle. C'est seulement au milieu du IVe siècle que les récits commencent à mentionner les innombrables miracles des serviteurs de Dieu, comme par exemple le miracle de Sainte Thècle. En Orient, on venait de tous les pays d'Orient pour aller se recueillir sur le tombeau de la martyre et on ramenait des petites fioles d'eau miraculeuses qui étaient censées guérir les maladies.
Donc le miracle est intimement lié à la sainteté.
Oui, très vite, puisque pour le saint, il s'agit d'imiter le Christ. Et très rapidement, on va se mettre à recenser les miracles des saints dans des recueils qu'on va appeler des recueils de miracles et qui vont servir à consigner tous les faits jugés étonnants, extraordinaires par la population. Un extraordinaire qui, pour les hommes du Moyen-Âge, est en fait considéré comme ordinaire. Le miracle, c'est vraiment ce qui doit advenir, ce qui est de l'ordre du royaume de Dieu sur la terre.
Est-ce que les théologiens vont s'emparer du mot pour essayer de lui donner une définition un peu solide ?
Très vite, à partir de Saint-Augustin, et puis au Moyen-Âge, on a des systématisations théologiques de plus en plus poussées, et par exemple, vers les années 1120-1140, on remet en question la définition d'un miracle que l'on verrait partout, parce que à l'an 1000, par exemple, on dénommait miracle les prodiges. Par exemple, une comète qui passe dans le ciel, elle était considérée comme un miracle. Or, au XIIe siècle, la mentalité évolue, parce qu'on estime que Dieu s'est aussi retiré du monde pour permettre à l'homme d'en découvrir les lois. Et à ce moment-là, on va établir une différence entre la nature et la surnature. La surnature où l'on va ranger le miracle et la nature où l'on va ranger tous les éléments naturels.
Alors au Moyen-Âge, je pense qu'on attribuait aussi beaucoup de miracles à la Vierge Marie.
D'innombrables miracles sont attribués à Marie, notamment le célèbre miracle de Théophile, où on raconte comment Théophile, qui était un diacre d'Orient, a vendu son âme au diable en signant sur un parchemin, et la Vierge est allée récupérer le parchemin signé pour que Théophile récupère son âme. Mais elle en fait bien d'autres encore. Elle va tenir un pendu en mettant ses mains sous ses pieds pour que ses mains construisent une nouvelle terre pour le pendu. Elle va bien entendu sauver les femmes en couche. On la voit par exemple dans la mer du Mont-Saint-Michel accourir pour sauver une femme désespérée qui est en train de se noyer alors qu'elle est enceinte et qu'elle s'apprête à accoucher. Et la Vierge Marie avec son manteau lui fait comme une chambre sûre où la jeune femme va pouvoir pouvoir accoucher sans douleur et sans souffrance.
Alors, vous disiez que le miracle, Sylvie Barnet, était lié à la sainteté. Donc, dans le procès de canonisation, en tout cas celui qui est pratiqué par l'Église romaine, comment intervient le miracle? Comment est-il positionné?
Alors, à partir des années 1199, on voit ça avec le procès de canonisation d'un marchand de Crémone qui s'appelait Homebon de Crémone. On définit qu'un saint, pour être canonisé, c'est-à-dire inscrit sur la liste officielle ou canon des saints, doit à la fois avoir accompli un certain nombre de miracles et à la fois être vertueux, avoir des vertus, c'est-à-dire, la Bible le dit très bien, la virtus, la vertu, c'est la puissance qui sort du Christ. Donc, dans les procès de canonisation, pour être saint, il faut avoir accompli un certain nombre de miracles à la ressemblance du Christ. Des guérisons, des résurrections, des multiplications de pain.
Il faut les avoir accomplis avant d'être mort ou après sa mort?
Alors, progressivement, il y a une évolution qui va s'opérer. Au Moyen-Âge, on comptabilise aussi bien les miracles avant la mort que les miracles après la mort.
Et puis arrive quelques siècles après la réforme, un peu la réforme en elle-même. D'ailleurs, comment se situent les protestants au moment de la réforme par rapport aux miracles?
Eh bien, Calvin, par exemple, dans son traité des reliques, va railler les miracles en disant « Mais comment les saints peuvent-ils entendre les hommes? Il faut qu'ils aient de si longues oreilles pour que ces oreilles viennent accueillir les paroles humaines. » Et il met en doute l'authenticité des miracles, la crédibilité des miracles. Pour les protestants, le miracle vient de Dieu seul. Et le miracle n'est pas obtenu par la médiation d'un saint, par la médiation d'un intercesseur, puisque les populations vont aller prier le saint pour obtenir telle ou telle guérison, pour obtenir telle ou telle faveur.
Et le Concile de Trente va-t-il se positionner par rapport au miracle? Va-t-il donner une définition nouvelle?
Alors, le Concile de Trente va systématiser la position critique vis-à-vis des miracles. Désormais, on va dire que les miracles sont mis sous surveillance. On contrôle les flambées miraculaires, notamment à la fin du XVIe siècle. Et puis, en même temps, on les instrumentalise. Il y a un petit peu un mouvement paradoxal. Et, par exemple, au début du XVIIe siècle, il y a d'innombrables lieux de pèlerinage qui sont lancés par le biais d'un miracle. C'est-à-dire que les clercs, par exemple, de Notre-Dame de Lorette ou les clercs de Notre-Dame du Bon Secours vont se mettre à écrire l'histoire du lieu et les miracles que la Vierge ou le Saint a accomplis en ce lieu pour que les populations viennent prier.
Mais les mentalités changent. Alors, quand arrive le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, où la rationalité devient tout de même plus prégnante, comment considère-t-on les miracles à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, il y a une différenciation qui s'opère à propos de la raison. Jusqu'au XVIIIe siècle, la raison est contemplative. À partir du XVIIIe siècle, la raison devient critique et le miracle est rangé du côté de ce surnaturel qui ne peut pas être maîtrisé et observable par les lumières de la raison. Donc, on le met beaucoup plus sous surveillance, on l'éradique et on l'éradique également dans les récits de vie de saint. C'est tout le travail accompli par les bollandistes à partir des années 1643, mais aussi au XVIIIe siècle, qui va commencer à éradiquer tout ce miracle finalement jugé du côté du merveilleux. Donc, on amalgame le miracle du côté du merveilleux et on contredit finalement les définitions médiévales parce que au Moyen-Âge, le miracle, c'est ce qui est du côté de Dieu, le merveilleux, c'est ce qui est du côté de l'imaginaire, voire parfois du côté du diabolique. Donc on assiste presque à un renversement de la définition.
Et avec les progrès scientifiques, les progrès de la médecine, comment considère-t-on le miracle?
Eh bien par exemple, à propos des procès de canonisation, l'Église en 1929 va créer une section spéciale qui va s'occuper des miracles de guérison. Donc désormais, tout saint qui a fait des miracles de guérison est soumis à l'approbation d'un comité de médecins qui vont juger de manière scientifique des miracles. C'est ainsi qu'à Lourdes, par exemple, on va se prononcer en faveur d'une définition très scientifique du miracle. On va l'observer avec des outils médicaux et plus avec les outils antérieurs. Donc au fond, le miracle, eh bien, sa définition avance avec le temps.
Mais il reste encore des miracles, rassurez-nous.
La vie est pleine de miracles.
Merci Sylvie Barnet de nous avoir éclairé sur l'évolution du mot miracle au fil des siècles. À bientôt.